À votre santé. Bonjour les auditrices et auditeurs de RVM 93.7. Nous sommes à la 154e émission de l'association citoyenne pour des centres de santé dans le pays de Valois. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question qui ne nous semble pas très bien connue, qui est l'accompagnement de la santé mentale avec deux invités.
André Barnoux, à la fois membre de la radio, mais aussi un ancien de la Nouvelle Forge, établissement dans lequel j'ai pu travailler à Crépy, et j'ai fini ma carrière en 2015.
Et Laurent Sanchis, actuellement éducateur dans cette même association, la Nouvelle Forge, et je travaille avec des enfants qui ont des troubles du comportement au-dessus de Compiègne.
Et Christian Max.
Et moi-même, Hélène Mazur. Et nous partons, nous allons essayer d'éclairer un peu ce qui se passe derrière les murs des établissements. Alors, d'abord... On ne sait pas trop bien ce qu'on entend par santé mentale et qu'est-ce qu'on fait globalement, quel est le projet dans ces structures, hein, puisqu'il y en a, qu'on en a à Crépy en Valois, il y en a ailleurs. Alors André, tu peux nous dire quelques mots ?
J'ai travaillé, moi, au tout début, dans ce qui s'appelait l'enfance inadaptée, qui, peu à peu, s'est intéressé à la santé mentale. Ce concept me paraît d'ailleurs beaucoup plus juste que celui d'enfance inadaptée. Je trouve que le terme inadapté était tout à fait inadapté. Il s'agit de toutes sortes de troubles qui empêchent les individus de pouvoir vivre et de pouvoir être en société normalement et en bonne relation et se sentir bien dans leur peau. Il n'y a pas, je dirais que le spectre est extrêmement large au départ. Il n'y a pas de définition de la santé mentale stricte. Ça démarre par très souvent des signaux d'appel qui sont des symptômes qui peuvent être extrêmement divers, qui sont détectés dans des centres comme les CMPP, les centres médico-psychopédagogiques, ou les CMP aussi, et puis qui sont aussi à l'origine de fonctionnement d'établissements spécialisés. Je pense que Laurent, lui, travaille dans un établissement, il va pouvoir aussi nous en parler.
Voilà. Eh ben, tu prends le relais, Laurent.
Pour poursuivre un peu ton propos, effectivement, là, on est sur un travail un peu de définition, de présentation de ce qu'est notre secteur. Moi, je le définirais dans un premier temps en disant que c'est déjà un travail d'équipe. Travail d'équipe, oui. Ça veut dire qu'on va avoir des personnes dites spécialistes. Alors, on peut penser aux médecins, psychiatres, psychologues. Il y a ceux dont on parle souvent, sans trop savoir ce que c'est, un éducateur ou une éducatrice. Voilà. Pour ma part, je suis éducateur technique, donc éduque, mais en atelier. Donc ça, on en parle beaucoup, sans toujours savoir, mais que font-ils ? Tiens, ils se baladent à l'extérieur avec 2-3 jeunes, c'est ça un métier ? Enfin voilà, je vous renvoie un peu les réflexions assez sympathiques qu'on a, mais bon, je caricature un peu. Mais la réalité des établissements, c'est aussi des chauffeurs, des maîtresses de maison, des personnes veilleurs de nuit en internat, personnel administratif, assistante sociale, enfin voilà. Quand je disais un travail d'équipe, c'est ce qu'ils appellent les équipes pluridisciplinaires. Et sur l'effort de définition que faisait André, parfois on a face à nous des situations complexes, incompréhensibles, et on essaye de débrouiller le terrain.
Oui.
Comprendre la personnalité, les cris d'alarme, les difficultés de la personne qu'on accompagne. Quand je dis personne, aujourd'hui ça va de 3 ans jusqu'à plus de 77 ans, comme les anciens lecteurs de Tintin. Pour ma part, je travaille avec donc des enfants et adolescents, et on parlera tout à l'heure certainement des évolutions, puisque notre public est de plus en plus jeune.
Voilà.
Alors justement, avant de parler donc des évolutions, parce qu'elles sont sur plusieurs terrains, les évolutions, tu m'avais dit, André, qu'il y avait un projet originel, tout à fait original.
Oui, je pense que la Nouvelle Forge, elle est née tout de suite après la guerre. D'abord, avec ses nécessités d'après la guerre, de prendre en charge plein de populations qui avaient été laissées pour compte. Et alors, c'est vrai qu'au départ, il y avait une préoccupation qui n'était pas simplement de santé mentale, mais je dirais sociétale. Ça a été un des points de démarrage de la Nouvelle Forge. Mais assez rapidement, la Nouvelle Forge a été quelque chose qui s'est constitué et qui a travaillé avec l'hôpital psychiatrique. Il y a eu une signature en 1973 pour émarger au secteur de psychiatrie infanto-juvénile. Il y a eu une reconnaissance de part et d'autre, aussi bien par l'hôpital que par la Nouvelle Forge. La Nouvelle Forge a fait fonctionner un service à l'intérieur même, d'ailleurs, de l'hôpital. Donc c'était un lien très fort. Et c'était une spécificité, c'était peut-être la seule association en France, à l'époque, qui avait signé comme ça avec le public, alors que les autres associations...
Avec le secteur public,
avec
c'est
le secteur public, oui, oui. Alors que les autres associations se développaient... je ne dirais pas de façon anarchique, mais je dirais sans tenir compte de ce travail. Ça a été en même temps un travail militant pour la mise en place du secteur de psychiatrie infantile et infanto-juvénile, du secteur psychiatrique en général. Et la Nouvelle Forge, là-dessus, s'est trouvée un peu en avance, quoi. Elle s'est trouvée en avance aussi dans ses propres pratiques, puisque c'est un endroit... qui a attiré beaucoup de professionnels très pointus qui venaient s'aguerrir ici, puisqu'ils se disaient à l'époque, j'ai commencé mon travail en 1969, il se passait quelque chose là-bas qui ne se passait pas ailleurs. Hein. Et c'était le début du courant qui s'est appelé le courant de psychothérapie institutionnelle. Laurent parlait d'équipe. Or, le travail d'équipe, c'est la base même du travail de psychothérapie institutionnelle. C'était aussi une époque faste où il y avait d'abord beaucoup de médecins psychiatres, alors que maintenant il n'y en a bientôt plus qu'un par département. C'était aussi la mise en place et les démarrages un peu importants des conventions collectives. Tout ça était ensemble et tout ça était, je dirais, mené de façon même un peu militante, on pourrait dire, à la Nouvelle Forge.
On y croyait.
Et on y croit toujours, je pense. Il en reste des établissements et des équipes qui, à mon avis, sont toujours fonctionnelles, fonctionnent bien et sont toujours dotées de professionnels qui travaillent. Même si je pense que Laurent va nous parler des évolutions et que, globalement, depuis 30 ans, on peut dire que la psychiatrie va mal. Hein. Mais ça, ce n'est pas un scoop. C'est quelque chose qu'on connaît.
Peut-être que tout le monde ne le sait pas. Alors justement, là, tu abordais le côté, je dirais, médical, psychiatrique.
Oui.
Hein. Or, moi, j'ai compris qu'il y avait d'autres métiers qui concourent aux soins et à l'accompagnement. Laurent, tu peux nous dire ?
Alors, c'est encore une spécificité de la Nouvelle Forge. En fait, c'est une façon d'entrevoir le boulot. Et on est bien d'accord, enfin ça c'est une définition assez basique, hein. La culture elle est toujours la conséquence de l'ensemble de nos rencontres, de ce qui nous a été transmis, des rencontres hasardeuses, des personnes qui vont nous marquer. Et donc on est persuadé qu'une personne qui est accueillie dans nos institutions, eh ben oui, elle va rencontrer une assistante sociale au départ dans son parcours, un directeur, une directrice, un médecin psychiatre qui pourrait être la haute autorité, puis parfois des éducateurs qui s'y prennent plus ou moins bien, puis il y a des femmes de ménage, et puis il y a des maîtresses de maison, et puis il y a le chauffeur le matin. Toutes ces personnes, avec leur degré d'intervention, concourent au quotidien du gamin, au quotidien de la personne qu'on accompagne. Et en fait, il est important, comme tu le disais, les réunions pluridisciplinaires. La Nouvelle Forge a, et on se bat pour, mais c'est pas encore donné, elle avait encore cette spécificité de donner la parole à toutes et à tous,
oui,
pour que la multiplicité des points de vue concourt à notre entendement de la situation de la personne et surtout fasse émerger des tentatives, des essais pour que la personne aille mieux, changer un petit peu notre axe d'intervention, un peu plus de classe, un peu moins de classe, plus d'extérieur, plus de groupal, plus de travail seul, pour voir un peu comment on arrive à solder certaines difficultés mentales et comment on peut parvenir, entre guillemets, à un autre palier pour travailler, puisque le but, c'est que la personne, au final, soit autonome, se démerde, soit bien dans sa peau, intègre cette société qui est souvent violente et qui a donc besoin d'armes, qui a besoin d'être à la fois accueilli, accompagné, mais qui a besoin de s'armer, entre guillemets, pour, à l'âge de ses 18-20 ans, eh ben, en France, avoir un petit boulot, s'en sortir, avoir un appart, etc. Quoi. Ce qui serait un petit peu ce que souhaite toute personne.
Bien
sûr. Accéder à ce qu'on appelle l'autonomie, hein, qui est souvent un gros mot, mais on n'y met pas toujours le même sens. Mais en tout cas, voilà, je reviens sur cette histoire-là. L'équipe pluridisciplinaire fait que l'autorité, entre guillemets, était partagée. La parole d'un éduc, d'un chauffeur, d'une femme de ménage et d'un médecin psychiatre était confrontée en réunion ouverte. Je dis bien confrontée, hein, ça veut dire que ce n'était pas aisé.
Oui.
Mais qu'à la fin de la réunion, lorsque notre direction garantissait la décision collective, eh bien on réaxait ou on reconduisait notre mode d'intervention auprès de la personne. Ça, c'est hyper spécifique parce que ça déconstruit la vision un peu hiérarchique des choses. Ce qui est très malvenu en ce moment, 2022.
Alors, moi, de ce que vous avez dit, j'essaye de m'imaginer la journée ou la semaine, je ne sais pas. Alors, moi, je vois surtout des enfants ou des jeunes, puisqu'on a l'établissement de Crowley à Crépy, et je les vois à l'extérieur, j'en ai vu à la piscine, j'en ai vu dans des activités auxquelles je participais. Et donc, voilà, j'aimerais bien m'imaginer pour répondre après, discuter avec des personnes qui, comme tu le disais, ont des visions, je dirais, lacunaires et qui interprètent vite fait tel ou tel comportement. Donc voilà, comment ça se passe, ce qu'on appelle l'accompagnement au concret?
Ou les accompagnements au pluriel, justement.
Ou les accompagnements. Tu vois, tu parlais de chauffeur, moi je connais un chauffeur. Alors, quelle est sa part dans l'accompagnement?
Pour De Crowley, il serait difficile pour moi de donner une journée type, mais dans un établissement, alors déjà, on va définir les choses. Il n'y a pas que des établissements, il y a aussi ce qu'on appelle des CESAD, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a du service qu'on va dire ambulatoire. C'est-à-dire que certaines personnes qui vont mal ont juste besoin d'être accompagnées parfois quelques mois, parfois un an, deux ans, et pas nécessairement de sortir du milieu scolaire dans lequel ils sont intégrés avec des difficultés, et de couper totalement avec le milieu pour venir en établissement. Ça, c'est un premier point. Second point, notre objectif, c'est le retour, de toute façon, en milieu scolaire, en sachant que là, il y a une spécificité, c'est qu'en ce moment, avec le rajeunissement du public, parler de retour pour des enfants qui ont 5 ans et demi, ils n'y ont jamais mis les pieds. Donc, quand on parle d'évolution, ce sont les choses qu'on gère, qu'on apprend on invente des tas de choses. Le temps de l'enfant est totalement différent à 5 ans qu'à 18 ans. Ça, on le sait parfaitement. Les découpages de journées ne peuvent pas être les mêmes. Donc, je reviens sur les établissements. Il ne faut pas oublier qu'on a une collaboration avec l'éducation nationale. Ils ont classe.
Oui.
D'accord.
Il y a des éducs sportifs. Ils ont sport.
Oui.
Mais par contre, les objectifs en termes d'acquisition, de compréhension, d'écrit, de comptage, etc., peuvent se travailler à la fois assis sagement, ce qui correspond assez peu à notre public, en classe, mais ça se travaille aussi en atelier ou en sortie, ou pendant un jeu.
Hein. C'est une pédagogie différenciée.
De toute façon, oui.
Et qui prend appui sur leur compétence.
Et de toute façon, on est tous d'accord sur le fait qu'on apprend tous les jours, en tout moment, tout milieu,
absolument,
au contact de n'importe qui. Simplement, on va en faire, entre guillemets, quelque chose, puisque dans nos réunions globales, on essaye de s'harmoniser, de s'accorder avec tel ou tel professionnel pour dire, tiens, en fait, ça, j'essaye de le travailler aussi. Et voilà mes conclusions. Donc, tu peux continuer là-dessus.
Ah oui.
Alors, je reviens parce qu'effectivement, tu parles de cette distinction entre le service, je dirais tous les services ambulatoires, c'est-à-dire des prises en charge particulières, et puis des fonctionnements d'établissement à la journée. C'est deux choses assez différentes. Il y a entre autres, existent pour la santé mentale les centres médico-psychopédagogiques qui sont un peu des gardes triage, je dirais, pour tout ce qui est santé mentale. Là, on rencontre une première équipe qui va travailler sur l'idée d'un diagnostic qui peut-être va conduire à solliciter un établissement à la journée. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont besoin que de consultations au CMPP et pas plus.
C'est assez connu, hein, le CMPP, parmi les familles. Il y en a qui savent, hein, leur enfant a été sollicité. Voilà, d'accord. Bon,
alors dans les professionnels, moi, j'étais psychomotricien. Je travaillais aussi avec des orthophonistes. Il y a encore d'autres branches. Mais comme le disait Laurent, nos propres diagnostics, ce n'était pas simplement notre spécialité, c'était dans la rencontre avec les éducateurs, avec effectivement les personnels de service, etc. aussi. On a tous élaboré toutes nos questions ensemble. Voilà. Et je pense que pendant un an, même si les évolutions pour le moment de la santé mentale laissent vraiment planer beaucoup de questions graves, les équipes essayent de fonctionner encore sur ce mode-là. J'espère que tu peux me confirmer ça, Laurent.
Alors, justement, dans le fonctionnement, là, on commence à devenir un peu un canard boiteux, puisque ce n'est pas parce qu'un organigramme est validé par notre financeur, l'Agence régionale de santé, que face au métier, on a des personnes. Aujourd'hui, des médecins psychiatres, il y en a de moins en moins. Des psychologues, on en a encore, mais après, l'ensemble des métiers spécifiques, ergo, tu parlais, ça, on n'arrive pratiquement pas à les recruter. On arrive presque au bout du bout.
Ergothérapeute.
On arrive au bout du bout en sachant qu'aujourd'hui, presque le cœur du métier, hein, à savoir éducateur, éducatrice, on n'en trouve plus. D'accord. Sur l'ensemble des Hauts-de-France, on avait deux centres de formation, Lille et Amiens. Le centre de Lille a fermé, donc il reste celui d'Amiens, la Pradis, hein, pour former des jeunes sur une carrière de 3 ans. Lorsque je demande aux personnes des promos qui parfois font des stages dans mon établissement, je dis, mais d'accord, mais donc il y a combien de personnes qui retourneront dans le Nord, Pas-de-Calais? En fait, pratiquement 70%. Donc pour l'Oise, sur une promo, on va se dire quoi? Il nous reste quoi, 20 éducs formés par an?
Donc il y a une très grande irrégularité, enfin inégalité de répartition possible. Quoi,
il y a surtout une crise des vocations. Et ça, je vais l'allier clairement à la question des salaires. Je parlais de chauffeurs, de personnel d'entretien. Tous ces gens-là, aujourd'hui, sur nos grilles, sont sous le SMIC. Alors, c'est sûr qu'on a du mal à remplacer.
Sous le SMIC. Ce qui est totalement illégal.
Oui, bah, maintenant, on va te mettre une majoration, mais ce qui fait que pendant 8 ans, 9 ans, tu ne bougeras plus, tu n'auras plus d'ancienneté, plus rien du tout. Voilà, crise des vocations, je pense que ça y contribue. Et il y a peut-être une perte de sens des métiers où de plus en plus, on va nous demander de faire le paiement à l'acte, chose à laquelle nous nous sommes opposés. Il n'empêche que la machine est lancée. Et le paiement à l'acte, je le rappelle, c'est quelque chose qui a un petit peu mis à mal le financement de l'hôpital public.
L'hôpital, mais bien sûr, oui.
Qui a été précurseur et qui, en pleine crise du Covid, disait on va peut-être arrêter un peu. Et nous, on est dans cette phase.
Alors là, je crois vraiment on aborde une grosse question et en même temps, j'aurais bien aimé qu'on revienne sur tout ce qu'a fait la nouvelle forge en maillage, cohérence, etc. Donc, chers amis auditrices et auditeurs, nous poursuivrons cette conversation dans notre prochaine émission afin que vous soyez bien au fait de ce que nous avons appelé l'accompagnement de la santé mentale. Vous pouvez nous réécouter le samedi à 10h30, le mardi à 13h, le jeudi à 16h et bien entendu en podcast. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.